Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Oui, frères et sœurs, nous faisons connaissance avec Jérusalem qui devient la capitale de David, mais qui, d'après ses ascendants, on parle de Melchisédek qui est le roi de justice, qui était roi de Salem et qui était contemporain donc d'Abraham et qui est arrivé vers lui quand il était victorieux en donnant une offrande de pain et de vin, qui évidemment évoque l'Eucharistie. Et l'endroit de cette ville de Jérusalem, et comme nous l'avons dit la dernière fois aussi, serait l'endroit même où Abraham a été invité à offrir son fils unique à Dieu dans ce sacrifice, et que nous savons que Dieu a arrêté sa main au dernier moment. Mais donc, il serait extraordinaire de voir Jérusalem, à la fois donc Abraham, et avec le sacrifice d'Isaac et Melchisédek, dont je citais en terminant la partie du canon romain qui évoque Melchisédek. Mais c'est pas mieux comme ça, parce que les Jébuséens qui habitaient le pays de Jérusalem, ou de Salem, ou de Moria, faisaient partie de ces 6 ou 7 peuplades que les Israélites se mirent en devoir de chasser progressivement lors de leur installation dans la terre promise. Leur liste revient dans un ordre presque toujours identique où les Jébuséens arrivent bon dernier toujours. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, des nations nombreuses tomberont devant toi, les Hittites, les Girgashites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Hivites et les Jébuséens. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, le Seigneur te les livrera et tu les battras. Dans plusieurs endroits, dans le Deutéronome, dans la Genèse, dans l'Exode, etc. Peut-être les derniers, dont les Jébuséens, représentent-ils la fleur de la conquête de la terre promise. En tout cas, leur ville, Jérusalem, sera le joyau d'élection serti dans l'écrin de l'héritage d'Israël. Cependant, les Jébuséens n'entendent pas être dépossédés. Ils ne sont pas impressionnés par les intentions évidentes de David, que n'entourait sans doute à l'époque qu'une troupe réduite. Ils vont jusqu'à le défier. « Tu n'entreras pas ici. Les aveugles et les boiteux t'en écarteront. » C'est le 2 Samuel 5, 6. Et David se soucie fort peu de cette injure. Elle sera l'occasion d'un proverbe à l'adresse de ceux qui estiment une entreprise impossible. « Oui, vous en faites un épouvantail. Et c'est comme au temps de David, attention, l'aveugle et le boiteux, on n'entre pas ici. » C'était devenu au verset 8 de ce chapitre 5 de 2e livre de Samuel. En fait, la ville citadelle est si bien protégée par ses remparts que les Jébuséens pouvaient s'estimer inexpugnables. Il faudra, pour la prendre, recourir à un habile stratagème. Jérusalem ne disposait pas seulement de solides murailles, elle jouissait d'un point d'eau permanent situé hors les murs, mais toujours accessible grâce à un tunnel d'une 30aine de mètres de longueur, aboutissant à un puits de 13 mètres, dont le fond correspondait au niveau de l'eau. Pour atteindre le puits et le tunnel, il suffisait de découvrir un autre accès à la source et de traverser la nappe d'eau, à moins qu'un abaissement du niveau n'eût facilité cette opération. Quand on eut localisé la source du Giron, David promit honneur et récompense au premier guerrier qui forcerait le tunnel pour faire irruption dans la ville. Quiconque frappera les Jébuséens et montera par le canal, et la suite. Donc, la phrase est inachevée dans le texte, mais elle peut être complétée par le texte parallèle du premier livre des Chroniques. Quiconque frappera le premier un Jébuséen deviendra chef et prince. Cette seconde tradition précise encore que ce premier fut Joab. Nous ne pouvons en être étonnés quand nous nous souvenons de l'intrépidité et même de la violence du chef de l'armée de David, nous en avons parlé lors d'épisodes précédents. Il n'était sûrement pas seul pour réaliser son exploit et jeter la panique dans la ville. Le commando, on peut l'appeler ainsi, profitant de l'effet de surprise, put sans doute aller ouvrir les portes, ce qui mit rapidement fin au siège sans coup férir semble-t-il. Et contrairement aux habitudes et à l'ordre de David de frapper les Jébuséens, il n'est pas fait mention ici d'un quelconque anathème passant les vaincus au fil de l'épée. La fondation de paix, vous savez, c'est la naissance, le Pacifique a fondé, on le disait l'autre fois, c'est la naissance de Jérusalem, Yerushalayim, la fondation de paix ne pouvait être prise dans un bain de sang. Et l'irrésistible montée du roi d'Israël et de Juda est l'œuvre d'un homme déterminé, mais pacifique. David se fait Salomon. Le père annonce le fils. Salomon, c'est le pacifique, précisément. Il ne veut pas détruire, mais construire. Et le texte poursuit, David s'installa dans la forteresse et l'appela Cité de David. Puis David construisit un mur sur son pourtour, depuis le Milo vers l'intérieur. Le Milo étant le remblai qui ferme la ville au nord et qui joindra plus tard la cité de David au temple. Donc avec lui, avec David, Joab, le chef de guerre, se fait constructeur ou restaurateur des maisons à l'intérieur. Donc, une grande œuvre d'intégration, de pacification et d'embellissement va commencer grâce à la protection de Dieu sur son bien-aimé. Et bien-aimé, c'est dans l'essence du mot de David, du nom de David, comme nous le savons. David, que commente ce deuxième livre des rois au chapitre 5e au verset 10, donc David allait grandissant et le Seigneur, le Dieu de Sabaoth, était avec lui. Nous avons l'impression d'entendre déjà les refrains de l'évangile de l'enfance dans Saint-Luc. Cependant, l'enfant grandissait, se fortifiait, se remplissait de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui.